Ça va mieux comme ça? Donc, ce serait une réflexion sur les formats de fichiers et les codes d'agrément qui peuvent contenir. Pour démarrer concrètement, on va commencer par une petite démonstration. Donc, imaginons que je suis un utilisateur normal qui consulte son mail tous les jours et je reçois régulièrement des fichiers de mes amis. Donc, classiquement, ce sont des fichiers avec des pièges noirs. Et toujours avec un Donc là, on voit un type de fichier, un mail classique. Donc c'est quelqu'un qui m'envoie un fichier avec des blagues à l'intérieur. Donc je vois que c'est un fichier rigolo pour un WRI. Donc pour ceux qui se rappellent, WRI c'est un ancien format de document sous Windows 3, il me semble. On écrivait à l'aide de Write. Donc c'est un document tout à fait classique que je peux ouvrir, ce n'est pas acceptable. Donc je l'ouvre. Là, sous Windows 2000, il s'ouvre sous WordPad. Et ici, j'ai un redessin, il faut que je double-clique dessus pour jouer. Bon, qu'à faire, on y va. Et là, que se passe-t-il? En fait, je viens de lancer un exécutable. Et vous voyez que je n'ai aucune demande de confirmation, il est parti tout seul. Enfin, une fois que j'ai fait double-clic, c'est lancé. Donc, l'exécutable en question peut faire tout ce qu'il veut sur la machine, une fois que j'ai lancé, c'est trop tard. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, comment assure-t-on la sécurité d'un réseau d'entreprise? Ben, ça se passe essentiellement aux interconnexions réseau. Alors, on met en place donc, des filtrages réseau et applicatifs, donc par des routeurs filtrants, des pare-feu, voire même des MZ, des passerelles, ça peut être assez complexe. On met des antivirus partout, donc sur les serveurs, les postes clients, sur les serveurs de messagerie, voire même sur les proxy web. On peut y rajouter de la détection d'intrusion, si on veut vraiment avoir l'établir de la qualité aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fichiers qui arrivent à passer à travers la maille de ces filets. Donc ces fichiers sont rarement filtrés, ils arrivent jusqu'à l'utilisateur final, qui les ouvre, et ces fichiers en fait peuvent présenter une grande menace pour le système, même si on a mis beaucoup de sécurité tout autour. Donc c'est la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Donc cette présentation, ça se penche sur le cas précis d'un utilisateur qui a reçu un fichier et qui l'ouvre sur son poste de travail Windows standard. Donc j'ai vraiment pris le poste Windows NT 2000 XP standard avec MS Office qu'on trouve dans la plupart des entreprises. Et donc je me penche sur le cas où l'utilisateur ouvre son fichier dans Explorer ou alors dans une application et voir qu'est-ce qui se passe. Donc nous verrons d'abord les menaces liées à ces fichiers, le code qu'ils peuvent contenir. Ensuite, nous ferons donc un petit état des lieux de quelques formats classiques de fichiers sous Windows. Et pour finir, donc, nous verrons quelles sont les solutions de sécurité qu'on peut mettre en place aujourd'hui et qu'il faudrait imaginer demain pour se protéger. Alors tout d'abord, l'importation de fichiers. Ben, ça peut venir principalement d'Internet, donc par le web, le mail, le transfert de fichiers FTP au peer-to-peer, etc. Mais ça peut aussi venir des supports mobiles. Donc disquettes, CD-ROM, lecteurs zip, clés USB, même les portables qui partent à l'extérieur et qui reviennent se connecter au réseau. Donc tous ces moyens-là peuvent amener des fichiers à pénétrer sur l'intranet. Et une fois qu'ils sont sur l'intranet, en fait, on verra qu'on a très peu de moyens de protection. Alors, que se passe-t-il quand un utilisateur ouvre un fichier? Donc tout d'abord, il l'importe soit volontairement, soit il le reçoit. La première information qu'il a, c'est le nom du fichier. Donc ça vient a priori la nature du fichier, de son contenu. Ensuite, il décide de l'ouvrir, soit en double clic, soit dans une application. Donc, en général, on a un antivirus installé sur le poste, donc il y a une vérification automatique. Et donc, a priori, à ce moment-là, tout ce qui est virus connu devrait être bloqué. Ensuite, si ce fichier contient du code, celui-ci peut s'exécuter, et dans ce cas-là, il s'exécute avec les droits de l'utilisateur. Et il agit absolument en son nom sur le réseau. Donc le gros problème, c'est que ce code en question peut être très bien un code malveillant qui agirait à l'insu de l'utilisateur. Voilà donc le problème global. Alors pour une petite définition, qu'est-ce qu'un code? Un code, c'est une information qui peut être interprétée ou exécutée pour déclencher des actions sur le système. Donc il peut y avoir de très diverses formes. Donc le plus connu, c'est le code binaire exécutable, donc les applications, les machines. Ça peut être aussi un simple script ou une macro dans un document, ou alors une simple ligne de commande. On verra tout à l'heure qu'une ligne de commande suffit à compromettre un système. Et il peut y avoir encore d'autres formes de code. Et bien sûr, donc, l'exécution d'un code qui est dans un fichier dépend avant tout de l'application qui l'ouvre. Alors, tous les formats de fichiers ne sont pas identiques vis-à-vis du code. Si on prend les exécutables ou les scripts, là c'est clair, ils contiennent toujours du code. Donc là, le problème de sécurité est évident. Et d'ailleurs, c'est la majorité des virus, c'est des choses trop connues. Si on prend des documents actifs, donc par exemple les documents Microsoft Office et les fichiers HTML, là, ces documents peuvent contenir un certain type de code, souvent sous forme de macro ou de script. Et il y a une dernière sorte de documents, ce sont les documents qui sont statiques. Donc les plus connus sont les images bitmap, le texte brut. Structurellement, ces documents, enfin, ces formats de fichiers ne contiennent jamais de code. C'est-à-dire quand je les ouvre dans une application, il n'y a aucune possibilité d'exécuter du code. Sauf si c'est du code dormant, qui est activé dans ce cas-là par mon fichier. Il y a un virus récent qui s'appelle son nom, qui stockait une partie de son code dans une image JPEG, par exemple. Mais on peut dire que l'image JPEG en question, quand je l'ouvre dans un logiciel d'image, il ne va jamais s'exécuter. Il faut que ce soit le virus qui est exécuté extérieur. Il y a d'autres possibilités. On prend par exemple le format MP3, qui ne contient pas structurellement de code. Par contre, on peut utiliser un débordement de buffer. Donc un exemple récent avec Windows XP. Donc si on met, je ne sais plus si c'est dans le fichier MP3, on peut stocker le nom d'artiste, le nom de l'album. Et donc si on met un nom trop long, et bien, il y a un débordement de buffer sur Windows XP. Et dans ce cas-là, il suffit de passer la souris au-dessus d'un fichier MP3. Il va aller lire l'information sur le fichier MP3. Ça va faire un débordement de buffer, dans ce cas-là, ça peut exécuter du code. Donc, dans ce cas-là, le fichier MP3 peut déclencher une action, bien que structurellement, il ne contienne pas de code. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Alors, quelles sont les menaces maintenant liées à un code malveillant? Alors, bon, il y a une multitude de possibilités d'actions malveillantes, petit corrige. Donc, un code malveillant peut envoyer des données confidentielles vers Internet. Il peut installer une porte dérobée pour permettre un accès réseau depuis l'extérieur, conformément les sécurités qui sont en place. Il peut insérer un logiciel de commande à distance. Il peut créer un compte administrateur avec un mot de passe connu, c'est l'utilisateur qui exécute le code de l'administrateur. Il peut détruire ou classifier les données, écouter des mots de passe saisis au clavier ou sortir sur le réseau, etc., etc. On peut imaginer tout. Une fois qu'un code a été lancé sur la machine, tout est possible. Alors, on peut essayer de définir ce qu'est un code malveillant par rapport à un code classique. Donc, il agit avant tout sur les systèmes d'information sans que l'utilisateur l'ait voulu. Donc, c'est une notion intuitive assez simple, mais difficile à formaliser. D'abord, parce qu'elle dépend de la volonté de l'utilisateur. Ensuite, on peut dire qu'un code malveillant, en général, il porte atteinte au système d'information. Donc, ça peut être son intégrité, donc modifier des fichiers, la base d'enregistrement, la mémoire, une base de données, un arrière, etc. Il peut atteindre le système en disponibilité, donc perturber ou rendre inaccessible un service, soit local, soit sur le réseau. Il peut attaquer en confidentialité, donc émettre des informations vers l'extérieur. Alors comment distinguer un code malveillant d'un code normal? Mais la frontière en fait est très difficile à déterminer de façon automatique. En fait, ça dépend beaucoup du contenu du système d'information et de sa politique de sécurité. Et aussi, comme je disais, de la volonté de l'utilisateur. Alors, que faudrait-il faire pour détecter un code malveillant? Ben, si c'est un fichier exécutable, cela nécessite un désassemblage pour comprendre ce que fait vraiment l'exécutable. C'est un processus long et manuel et le résultat n'est pas toujours garanti. Ensuite, si c'est un document actif, comme on voyait tout à l'heure, quand on a un macro de script, en théorie c'est plus facile parce que le langage de macro script est limité. Donc, on devrait pouvoir extraire les mots-clés à risque. Et donc, dans ce cas-là, on peut classer plus facilement les documents pour dire celui-là, il ne fera rien de grave, et celui-là, par contre, il peut faire une action malveillante. Donc, voilà. En code non entretien, en général, c'est des limites à certaines actions sans danger. Et donc, à débloquer du langage. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie, sur les. Essayer de poser un peu le problème. Non?
Moi, je rajouterais juste un complément sur les fichiers, le format fichier exécutable.
Ouais.
Je pense que. Faut pas. Faut le micro, tout le monde.
Non. Ouais, moi, je vais ajouter une seule chose sur les formats fichiers exécutables, mais là, qui sont très importants, c'est les formats Windows Media. Parce que si vous prenez un .wmz, en fait, c'est un. machine pour Windows Media, et en fait, c'est un ordinateur.zip, c'est une machine tout simplement, et dedans il y a du code, il peut y avoir des DLL, des composants Linux, etc. Et toutes ces skins, elles sont en fait téléchargeables directement depuis Windows Media. Vous allez cliquer sur un bouton, vous propose de télécharger une nouvelle visualisation, et ça se télécharge depuis un site web, ou n'importe qui peut poser le code. Donc c'est une vraie skin. Il y a eu plusieurs avis de sécurité d'ailleurs sur l'exécution de. Le skin ou le média dans les zones de sécurité, ce n'est pas des zones de très restreintes.
C'est donc un bon exemple de format fichier qui pose problème. Donc là, je vais vous en présenter quelques autres. Donc, je tiens à préciser que c'est bien dans le. Je me limite à l'environnement Windows et à un environnement standard avec Microsoft Office. Donc, la même étude pourrait être étendue à d'autres OS comme Linux ou macOS. Dans ces systèmes-là, il y a aussi des formats fichiers qui posent des problèmes identiques, mais là, ce que je vous présente, c'est vraiment limité à Windows. Alors, tout d'abord, sous Windows, quelque chose de très important, c'est l'association des types de fichiers. Donc, sous Windows, ce qui indique le type d'un fichier, c'est son extension. Donc, l'extension, je suppose que vous connaissez tous, c'est donc à la fin du nom de fichier après le point. Donc, ici, rapport 2003.html, extension HTML. Ce type détermine l'application qui sera lancée quand l'utilisateur ouvre le fichier dans l'Explorer. Donc pour HTML, soit Internet Explorer par défaut, ça peut être autre chose. Et donc cette association entre le type de fichier, son extension et l'application correspondante est stockée dans la base de données. Voilà, donc bon, si sous Windows NT 2000 XP, il y a les commandes, la ligne de commande, les commandes ASOC et F-Type qui permettent de lister les types enregistrés. Donc dans les actes de la conférence, je vais donner quelques exemples. Alors, premier format de fichier que nous allons voir, les exécutables binaires. Donc les extensions bien connues qui sont utilisées comme, il y a aussi SCR, CPL, CI, DLL, etc. Il y en a un certain nombre. Donc c'est du code machine qui est directement exécutable par le processeur. Et c'est, donc, comme je disais tout à l'heure, un format qui pose le plus grand problème de sécurité. Alors, si on prend les fichiers exe.scr, donc ils se lancent tout seuls directement dès qu'on double-clique dedans dans l'Explorer. C'est un format qui est toujours binaire et il y a une entête bien spécifique qui commence par NZ, ou ZN. Donc, les initiales de Michael Zimmer, l'inventeur de NZ, Si on prend par contre le format COM, c'est un format brut qui contient uniquement du code machine sans aucune entête et il peut avoir un format binaire ou même texte. Voilà, si on prend les autres formats fichiers, CPL, CI, DLL, c'est exactement la même structure qu'un exe. Mais par contre, si on double-clique dessus, ça ne fait rien du tout. Il faut les. Pour qu'ils s'exécutent, il faut faire des manips un peu plus compliquées. Donc, ça pose moins de problèmes de sécurité pour l'utilisateur, enfin, qui reçoit par manip. Voilà. Alors, ensuite, deuxième format fichier, les fichiers de commande Windows 1. Donc, les extensions classiques sont BAT et CMD. Donc, c'est des fichiers texte. Contiennent simplement une suite de commandes à exécuter par le système. Et ces commandes peuvent porter atteinte à la sécurité du système. Par exemple, donc, voici deux commandes. Si on les exécute en séquence, ça crée un compte administrateur avec un mot de passe connu sur le système. Donc bien sûr, il faut que ce soit l'administrateur qui lance. Et donc si un administrateur lance un fichier BAT qui contient ces deux commandes, il a créé un compte pirate sur son ordinateur sans s'en rendre compte. On peut aussi, en une seule commande, activer un service de commande de distance. C'est netstar.tnet sur Windows 2000, ça va démarrer un serveur.tnet. Donc vous prenez ces trois commandes mises ensemble, sur un réseau qui n'est pas vraiment bien protégé, eh bien, on obtient un accès externe à l'entreprise via Telnet en tant qu'administrateur. Donc un simple fichier BAT de trois lignes peut poser de gros problèmes. Voilà. Si nous prenons maintenant les raccourcis et les fichiers PIF, programme interprète, voilà, ce sont deux programmes qui permettent, enfin deux formats qui sont utilisés donc sous Windows et qui lancent en fait une ligne de commande quand on clique dessus. Donc la liste est similaire au fichier bash, c'est qu'on n'a qu'une seule ligne de commande pour mettre du code malveillant. Mais bon, c'est tout à fait faisable. On peut concaténer plusieurs commandes dans une seule. Et d'autre part, un autre problème, c'est que l'extension de la ligne est toujours masquée dans Explorer, peut-être même rajouter l'extra, je ne sais pas bien. Donc, ça a été utilisé par certains virus, ce système, enfin ce format. Autre problème de sécurité, si vous prenez un fichier exe ou com, vous le renommez simplement en pif ou link, et bien, dans de nombreux cas, il reste exécutable. jamais vous mettez en place un filtrage de fichiers sur votre mail et que vous regardez que les extensions, si vous autorisez Fichelink et pas Gnome, un simple renommage comme ça permet de contourner le filtrage. Voilà. Alors,
je vais ajouter une petite parenthèse. Ce dernier procédé est utilisé énormément par les virus. Je ne sais pas si vous avez reçu pas mal de spam quand on était attaché. C'est souvent des points bif, des points mk, qui font une certaine taille, beaucoup trop grosse, si c'est par rapport à un simple lien, comme ça. C'est l'école exécutable, c'est un virus. Donc si vous le mettez sur le disque et que vous l'exécutez, vous êtes infecté.
Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à un autre format fichier. Donc ce sont les scripts du Windows Script Pool Host, WSH. Donc ce sont les extensions bien connues VBS et VBS, ainsi que VBE et JSE. Alors WSH, c'est un outil optionnel, mais qui est installé par défaut depuis Windows 98 en édition, je crois. Donc maintenant, on le trouve sur tous les Windows. En fait, c'est un interpréteur de script polyvalent. Par défaut, il connaît les langages VBScript et JScript, donc les fichiers VBS et JS. Mais on peut très bien lui ajouter d'autres langages comme Perl, TCL, etc. Alors, ces langages sont beaucoup plus évolués que le langage Flash. Ils permettent d'accéder nativement aux fichiers, à la base de registres, voire même aux applications par API. Donc pour ça, il y a un exemple très connu, c'est Virus I Love You, qui était écrit en quelques lignes de VBS et qui accédait très facilement par l'adresse Outlook Express pour se réfléchir par email. Donc, depuis, il a été beaucoup copié, mais à la base, donc, il utilisait ce procédé. Alors en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que le Windows Scripting Host est rarement utilisé par un utilisateur normal. Donc en général, on pourrait le désactiver, donc dans ce cas-là, s'affranchir de ce gros problème de sécurité. Si on prend le format VBE JSE, c'est la même chose, ce sont des scripts, mais ils ont été chiffrés par un outil fourni par Microsoft, le MS Script Encoder. Donc on obtient les mêmes fichiers, mais ils sont exécutables de la même façon, mais on ne voit pas le code à l'intérieur. Donc, il existe des outils qui lisent le VBScript et vous disent s'il y a des mots-clés à risque, style accès au fichier ou à l'exergiste. En passant par le script encoder, on peut très bien camoufler un peu de l'API. Donc, quand on filtre, il faut penser à filtrer toutes ces extensions-là. Voilà. Alors, un petit exemple de VBScript et de JScript. Pour être offensif, on prend des scripts tout simples qui créent un fichier. Alors tout d'abord, en VBScript, vous voyez que j'ai mis en rouge quelques mots-clés. Donc, voilà la même chose en JScript. Alors ces mots-clés en rouge, pour ceux qui connaissent, donc, ils créent un objet ActiveX de type scripting practice in objet. Et après, donc, ils font appel à cet objet ActiveX pour écrire dans un fichier texte. Donc, vous voyez, c'est relativement simple à écrire. Et ce qu'on voit, c'est que la syntaxe entre VBScript et JScript est quasiment équivalente. La syntaxe du langage change, par contre, comment on fait appel à des objectifs, on ne voit pas les mêmes commandes. Voilà, c'est un simple truc d'exemple. Et donc, si je mets ce code dans un fichier VBS ou JS, je double-clique dessus, ça va tout de suite se lancer, il n'y aura aucune demande de confirmation. Alors, il y a d'autres langages de script, comme pour langage, donc, Python, Perl, Go, etc. Bon, chacun de ces langages nécessite que l'interpréteur correspondant soit installé, sinon il n'y a pas d'exécution possible. Comme ils ne sont pas installés par défaut sur un système Windows, il n'y a pas de risque, a priori. Vous recevez un programme Python si vous n'êtes pas Python installé, ça fera rien. Donc le risque est moins important que le VBScript et le JScript, mais cela dépend de l'application installée. Là, c'est à chaque responsable informatique de faire le bilan des interpréteurs installés sur ces machines. Voilà, alors un gros morceau c'est HTML, donc extension bien connue, HTML, HTM. C'est un document texte qui peut contenir des scripts et faire des appels à des objets ActiveX. Alors par défaut sous Windows il est ouvert par Internet Explorer. Explorer lui connaît, enfin, est capable d'exécuter les scripts écrits en langage VBScript et JScript, donc le même langage que précédemment. Il y a une chose qui est souvent négligée, c'est que JScript, c'est un surensemble de JavaScript, donc c'est ça reprend la même syntaxe du langage, mais comme il y a accès à ActiveX, il a exactement les mêmes fonctions que VBScript. Donc les mêmes problèmes de sécurité se posent, que ce soit du VBScript ou du JScript. Et souvent, quand on regarde quand on parle de sécurité, on parle tout le temps de VBScript et rarement de JScript, alors que c'est exactement la même chose.
Explorer. Et alors, comment fonctionne Internet Explorer? Donc, il contient des zones de sécurité. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce système. Donc, ça permet essentiellement d'interdire les actions dangereuses pour les scripts inconnus. Selon le paramétrage, ça peut soit interdire carrément, soit demander confirmation. Donc, vous connaissez tous les problèmes que pose Internet Explorer depuis de nombreuses années. Il y a de très nombreuses failles qui ont permis de contourner cette protection. Il y a toujours des failles à l'heure actuelle, donc qui permet d'accéder au système. Alors, une petite démonstration. Donc, si jamais sur le système on a un autre navigateur, comme un Netscape ou Mozilla, qui est installé pour ouvrir par défaut le fichier HTML, qui remplace Internet Explorer, seul JavaScript est accepté, et le langage JavaScript pur, de base. Donc, comme ce langage n'a pas accès à ActiveX, on ne peut pas accéder au fichier au registre du système. Enfin, sauf pas, bien sûr, je vous passe dans le cas normal. Alors, les scripts dans HTML. On peut les placer à de nombreux endroits dans une page HTML. Donc, le plus simple, c'est entre les balises script et le siège script. Et dans celle-là, le script sera exécuté directement à l'ouverture. Ça peut être dans une URL, un lien qui déclenche un script. Il suffit que dans l'URL, on mette JavaScript le point et le code derrière. Ça va exécuter du code au lieu d'envoyer vers notre page. Note importante, c'est donc, comme je vous disais, pour IE, pour Internet Explorer, JavaScript, ça signifie en fait JScript. Donc c'est strictement identique au niveau sécurité à VBScript. Donc c'est pas parce que on met JavaScript que c'est brisé. Un lien peut très bien, vous pouvez cliquer sur un lien qui va écrire un fichier sur votre système. Il y a d'autres endroits où on peut mettre des scripts sur une page web. Donc sur une page HTML, vous avez des objets comme des images, des textes. Et chaque objet, on peut lui mettre par exemple onload ou onNodeOver. Donc si je prends une image et que je mets un attribut onNodeOver, et bien quand je passerai le curseur de la souris au-dessus, ça va déclencher le script qui se trouve dans l'événement onNodeOver. Voilà un exemple. Si je prends l'objet body, donc le corps de ma page web, je mets onload et un script derrière, et bien le script va se lancer dès l'ouverture de la page. Voilà. Donc, et dans ce cas-là, quand on ouvre un fichier HTML, on est dans une zone de sécurité particulière de l'Internet Explorer, ce qui fait que toute action sur les fichiers ou sur le registre va déclencher une demande de confirmation, car on essaie d'utiliser ActiveX. Je vais vous montrer tout ça. Donc, tout d'abord, un script tout simple, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc là, j'ai mis un script entre les balises script et slash script. Donc là, dès que j'ouvre ma page HTML, j'ai mon script qui se lance et qui affiche un pop-up. Voilà. Et le contenu de la page HTML vient après. Autre démo. Donc je vous parlais des URL qui commencent par JavaScript de point. Donc là, j'ai une page HTML simple. Le script ne s'est pas déclenché. Ici, j'ai un lien. Quand je mets ma souris dessus, je ne sais pas si vous voyez en bas, on voit l'URL qui va être ouverte. Et quand je clique dessus, et ça m'a lancé un script. Voilà. Donc là, c'est un script tout bête qui affiche un pop-up, donc il n'y a aucune demande de confirmation, parce que vous n'avez pas de danger. Maintenant, dernière démonstration, c'est un script là qui va essayer d'écrire un fichier texte. Voilà. Donc là, avant toute chose, j'ai un Internet Explorer qui me dit qu'il y a un contrôle actif présent sur cette page pour réagir de manière fiable à d'autres parties de la page. Donc, c'est un message très compréhensible par l'utilisateur standard. Donc là, qu'est-ce qu'il est tenté de faire? Il est faire oui, comme d'habitude. Et voilà, mon script a créé un fichier. Donc par défaut, sur Internet Explorer, le seul rempart contre les scripts d'un page HTML, c'est cette demande de confirmation. Donc bien sûr, on peut sécuriser Internet Explorer pour empêcher ça. Je ne vais pas rentrer. Je pense pour l'instant. Voilà, donc cette demande de confirmation dépend du paramétrage du jeu. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, en utilisant certaines failles connues de l'Internet Explorer, on peut très bien éviter cette demande de confirmation. Donc voilà le script que je viens de vous montrer. Donc, c'était le même script écrit en JavaScript que tout à l'heure. Donc j'ai créé un fichier avec un objet ActiveX. Et j'ai
était simplement placé dans une page HTML en se réalisant. Donc c'est moyen de sortir la demande. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur HTML. Non, personne. Donc maintenant les documents Microsoft Office. Là aussi un grand morceau. Donc les extensions classiques c'est Doc pour Word, TRS pour Excel, PPT pour PowerPoint et MV pour Access. Il y en a de nombreuses autres. Donc tous ces fichiers ont un format binaire commun qui s'appelle QBA pour les dernières versions de Office, peut-être en effet. Alors ces documents, le principal problème que vous connaissez tous, c'est qu'ils peuvent contenir des macros. Et donc ces macros peuvent accéder au disque registre comme les langages de script qu'on a vu. Et selon leur nom, le problème c'est que les macros peuvent être ouvertes automatiquement à l'ouverture du document. Donc par exemple sous Word, si vous créez une macro qui s'appelle auto-open, vous ouvrez le document Word et la macro va s'exécuter. Alors, démonstration. Voilà, donc j'ai un document Word qui contient une macro auto-open. On a exactement le même mécanisme sous Excel et sous Access, mais avec des noms de macros différents. Alors là, c'est facile. Avant de charger le document, Word a détecté qu'il y avait des macros à l'intérieur. Donc, il me demande si je veux activer ces macros ou les désactiver. Donc, dans ce cas-là, dans le cas habituel, je vais désactiver les macros puisque le fichier n'est pas mis sur ce point. Mais là, donc, j'active. Et là, immédiatement, donc, la macro auto-open se déclenche. Voilà. Si ça avait été une macro avec un autre nom, il ne l'aurait pas ouvert. J'aurais fait tout par le nom. Voilà, donc je reviens. Donc par défaut, on voit qu'il y a une demande de confirmation à l'utilisateur. C'est un peu plus clair que dans le cas de l'Internet Explorer, mais c'est pas forcément évident pour un utilisateur lambda. Ah oui, il y a un gros problème à l'Access, c'est que c'est le seul de la suite Office qui ne demande pas de confirmation. Prenez une base Access avec une macro qui s'appelle AutoExec, vous ouvrez la base de données et automatiquement la macro va se lancer. Il n'y a pas moyen de demander d'avoir une confirmation avec Access. Donc ça montre que les logiciels Microsoft de la suite Office n'ont pas été développés par les mêmes équipes, ils n'ont pas tous appliqué les mêmes principes. Voilà. Donc on peut tempérer ça en disant que Access est rarement installé par défaut, ce qui ne fait pas partie de la suite Office qu'on a. Mais bon, ça peut quand même poser des problèmes dans certaines entreprises, parce que c'est très parti. Alors, en fait, nous avons un niveau de sécurité qui est paramétrable pour les macros. Donc par défaut, le logiciel Office demande confirmation. Depuis Office 2000, ils ont rajouté un niveau de sécurité haut qui permet de n'autoriser que les macros signés. Alors ça, je peux vous montrer dans Word. Donc vous voyez dans le menu outils, macro, sécurité. C'est écrit un peu petit, je suis désolé, mais on peut voir qu'il y a trois niveaux de sécurité. Et donc dans le niveau de sécurité le plus haut, en fait, je peux donner des certificats cryptographiques qui correspondent à des sources fiables de macros. Dans ce cas-là, Word n'autorisera que ces macros-là. Donc il y a un outil qui permet, sur le CD d'Office 2000, de signer donc, les macros d'une entreprise, par exemple, et de n'autoriser que celle-là. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde ici qui a mis ça de façon étendue. Non. Et dernier niveau, donc, on peut aussi avoir un niveau de sécurité où Word, Office ne demande pas du tout de confirmation. Dans ce cas-là, il y aura des gros problèmes de sécurité. Alors, autre particularité des documents Office, c'est qu'ils peuvent être renommés avec une extension inconnue. Et même avec une extension inconnue, Explorer est capable de trouver la bonne application et de la lancer. Alors, petite démonstration. Ici, donc, j'ai un fichier Word classique, qui s'appelle rapport.doc. Je le renomme en rapport.xyz. Alors là, il me prévient, si vous changez l'extension du fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Et moi, je suis sûr de pouvoir la changer, je réponds oui. Voilà, donc l'icône de Word a disparu, donc il ne le reconnaît plus. Je vais faire un double clic sur ce fichier. Surprise, c'est Word qui l'ouvre quand même. Donc, pour les fichiers Office,
En fait, on ne peut pas se baser sur le nom pour faire un filtrage, parce qu'on peut très bien envoyer un fichier contenant des macros avec un nom inconnu, qui ne sera pas vu. Donc voilà, c'est une particularité assez spéciale de NSFX. Donc, que s'est-il passé? En fait, c'est que Explorer ne connaissait pas l'extension du fichier. Et en fait, il a été regarder le contenu du fichier. Il a vu que c'était un fichier Office, un fichier Word, et donc il a lancé Word. Donc, dans ce cas-là, c'est une DLL qui est installée par MSOffice, qui en fait est appelée à chaque fois qu'Explorer ne connaît pas le type d'un fichier. Donc, pour l'instant, je n'ai vu que sur MSOffice, mais il y a peut-être d'autres applications qui pourraient employer cette méthode-là. Donc, sous Windows, en fait, ce que je vous disais au départ n'est pas complètement vrai. Il n'y a pas que le nom, donc le contenu d'un fichier aussi peut changer l'application qui va l'ouvrir. Donc, conclusion, quand on fait un filtrage, le nom de fichier ne suffit pas toujours à déterminer. Alors, autre problème, les objets OLE. Il y a de très nombreuses applications qui connaissent le protocole OLE. Et ce protocole donc, permet l'inclusion de documents de format quelconque dans un autre document. Donc, par exemple, dans Word, Excel, WordPad, on peut l'utiliser. On peut inclure un tableau Excel dans un document Word, par exemple. Et il y a un type d'objet OLE particulier, qui est l'objet package, qui peut contenir tout fichier, compris les exécutables. Et quand vous le mettez dans un document Word, par exemple, on obtient une icône, et si on double clique sur l'icône, ben ça va lancer le fichier qu'on a mis à l'intérieur. Donc, petite démonstration. Là, j'ai un document Word avec un objet OLE à l'intérieur. Donc, j'ai une icône, si je double clique dessus. Ah, cette fois-ci, j'ai une demande de confirmation. Il m'a dit que je vais activer un objet OLE qui pourrait contenir des virus sur endommager l'ordinateur. Là déjà c'est relativement clair comme message. Et si je sais qu'il vient d'une source fiable, je clique sur lui et ça exécute ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est l'exécutable que je vous avais montré au tout début. Voilà. Donc vous voyez que sous Word, c'est relativement bien fait. Le problème à ce niveau-là, c'est qu'en fait c'est à chaque application d'assurer la sécurité de ce. C'est un objet OLE. Et donc, par exemple, demander confirmation. Donc, on a vu dans Word, Word demande la confirmation avec une mise en garde assez claire. Bonjour, un objet OLE package. Si maintenant, j'ouvre ça sur WordPad, donc là, oui, je suis bien dans WordPad, je double-clique sur le même objet OLE, et là, ça lance directement l'exécutable sans aucune confirmation. Ça montre bien que chaque application n'est pas identique devant les objets OLE. Donc, au passage, vous avez peut-être compris le truc que j'ai utilisé. En fait, c'est un document Word, format Word 6, donc qui est connu par WordPad, et je l'ai renommé avec une extension .wri. C'est pas du tout un fichier white d'origine. Par contre, ce que ça change, c'est que l'extension WRI est associée par défaut à WordPad, et non à WordPad. Donc, dans ce cas-là, en renommant comme ça, je suis sûr qu'il va être ouvert dans WordPad. Il n'y aura pas de demande de confirmation. Donc, je ne connais pas de virus qui utilise ça aujourd'hui, mais il y en a quelques-unes. Voilà, donc WordPad ne demande rien à l'exécution directe. Et je suis sûr qu'il y a d'autres applications assez connues qui permettent d'inclure des objets OLE de cette façon-là, qui n'ont pas demandé de confirmation. Voilà. Alors, autre format assez connu, les fichiers RTF. Donc c'est un format texte portable qui peut reproduire la majorité des mises en page de Word. Il apporte une meilleure sécurité car il n'y a aucune macro à l'intérieur, ni des liens, ni des URL. Donc c'est souvent recommandé comme format d'échange, c'est beaucoup plus sûr vis-à-vis des virus. Cependant, ce qui est rarement signalé, c'est que le contenu d'un fichier RTF n'est pas 100% statique, car on peut très bien y mettre des objets OLE. De plus, un document RTF peut très bien être nommé en WRI, comme le document 26, et être ouvert par WordPad et Word, donc pas de confirmation non plus. Donc le format RTF n'est pas totalement anodin. Voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais passer les fichiers SHS.
sais pas si vous connaissez cette utilité, je crois, par des virus. Les fichiers SHF sont des objets OEE en fait, qui sont indépendants de tout document. Le problème, c'est que l'extension SHS est toujours liée. Quand on double-clique dessus, ça lance directement le fichier inclus. L'icône ressemble à celle d'un fichier texte et le fichier peut être renommé. Donc, par exemple, rapport.txt.shs, il apparaîtra comme rapport.txt dans les fois. Donc, un utilisateur normal, il va croire qu'il ouvre un fichier texte et il va faire comme tout. Voilà. Dernier format de fichier que je voudrais vous montrer, le format PDF. Alors, là, c'est un peu comme RTF, c'est un format qui est portable et que j'ai sûr pour les échanges, car il est relativement technique. Et cependant, il y a quand même une possibilité méconnue qui permet de lancer des commandes externes dès l'ouverture ou à la fermeture du document. Alors, petite démonstration. Voilà, donc j'ai un fichier PDF tout à fait normal, je le lance. Ça s'ouvre. Ah, il y a... Bon, je vais chez des mots. J'ai eu ça hier soir aussi, je ne sais pas pourquoi. Merde. Moi, je suis désolé, je vais... Voilà. Arrêtez ça là. Alors, donc, j'ai déjà eu un problème hier, donc, évidemment, il y a un petit problème avec Acrobat. En fait, j'utilise une fonction tout à fait connue d'Acrobat qui est documentée, hein, c'est pas ambigu, il y a l'intérieur du fichier. Alors, en fait, on peut associer à l'ouverture d'une page du document une commande externe, une ligne de commande. Donc, tout ce que je vous montrais au début pour les fichiers BAT, toute une ligne, est valable pour PDF aussi. La seule différence, c'est que Acrobat affiche la ligne de commande et demande confirmation avant l'exécution. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une sécurité. Mais bon, un utilisateur lambda pourrait être tenté de répondre oui à la demande de confirmation et de lancer quand même la chose. Donc, le message que je voulais faire passer, c'est que le format PDF n'est pas si sûr que ce qu'on veut bien dire. Voilà. Par contre, il est possible de sécuriser Acrobat en rajoutant une clé de registre particulière. Donc, tous les détails sont indiqués dans le document. Alors, les autres formats de fichiers, bah oui, il y en a des milliers de formats de fichiers différents. Il y a au moins quelques centaines de formats classiques et qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Donc, c'est vraiment faire à la travers, même XML, ça peut poser des problèmes. Voilà, donc, les mêmes méthodes pourraient être menées sur Linux, notre système, puisqu'il y a aussi des formats de fichiers particuliers qui peuvent déclencher du code ou une simple action sur le système, avec donc, un intervalle de résultats similaires. Surtout quand on écoute, quand on travaille en plus en permanence. Voilà. Alors, une petite synthèse. Donc, nous avons vu qu'il y avait un mécanisme d'ouverture chez Windows. Avec MS Office, c'était un peu plus complexe que prévu. Donc, si c'est un exécutable, il est lancé directement. S'il possède une extension commune associée à une application, ça ouvre l'application, ça ouvre le fichier, l'application correspondante. Sinon, si c'est un fichier, une console qui est renommée, qui a été reconnue par son contenu, parce que là, ça ouvre l'application Office. Et finalement, si le fichier n'est pas reconnu, il y aura une erreur au niveau du dialogue pour choisir avec une autre application. Voilà. Alors, maintenant, donc, j'ai essayé de proposer une classification des formats fichiers vis-à-vis du code. Donc, c'est simple, j'ai pris un risque classé dans A5. 1, c'est pour les formats qui contiennent toujours du code, avec l'exécution directe. En 2, c'est les formats qui contiennent parfois du code, et qui peut s'exécuter directement sans information utilisateur. En 3, ce sont les formats qui contiennent parfois du code et qui demandent confirmation avant de s'exécuter. En 4, ce sont des formats qui contiennent parfois du code et qui demandent une action vraiment volontaire de l'utilisateur pour exécuter le code. Et en 5, ce sont plus d'autres formats donc, qui sont statiques, qui ne contiennent jamais de code. D'autre part, donc, j'ai aussi classé les formats suivant si c'est des conteneurs ou non. Un conteneur, c'est un format qui peut contenir d'autres fichiers, comme les archives ou les documents. Donc voilà un exemple de classification qu'on peut obtenir. Donc j'ai classé certains formats fichiers par le risque que je vais indiquer. Donc on voit que dans le quartier de tête, on va trouver du fichier, des fichiers bash, des scripts VBS ou JS. Ensuite, on a les bat access et les fichiers HTML qui peuvent exécuter du code de façon directe sans confirmation. pour les documents Word ou PDF, qui demande encore confirmation. En tout cas, pour RTF, ça demande quand même une connexion pour exécuter un GLE. Après, dans plus de formats différents classiques, ça ne compte pas trop trop. Voilà. Alors, donc, ce type de classification est très utile pour effectuer une analyse de risque sur un réseau. Et il permet notamment de bâtir une politique de sécurité de chiffrage, donc basée sur les formats fichiers, en adaptant aux besoins de leur profil. Voilà. Alors maintenant, donc, la dernière partie, puisque je suis en fait pour ça, les solutions. Donc, on peut sécuriser au niveau des entrées fichiers, donc chiffrage d'entrée réseau, sécurisation des supports mobiles. On peut aussi sécuriser au niveau du poste de travail qui exécute là où on ouvre les fichiers, donc le système d'exploitation et d'application. Et dernièrement, donc, on peut aussi rappeler une mesure organisationnelle pour se protéger contre le code malveillant. Alors, au niveau des entrées fichiers, donc, le plus simple, c'est d'être passé avec le chiffrage du réseau applicatif. Donc, pour chiffrer tous les fichiers qui sont transmis par mail, par web, par RTG. Donc, dans ce cas-là, on peut dire, suivant la classification qu'on a faite des formats fichiers, on peut bloquer ou nettoyer les formats fichiers pour un compte négatif. Et donc, ce qu'on a vu à travers l'exemple que je vous ai montré, c'est qu'un chiffrage simple par nom de fichier ou d'email est suffisant. Pour vraiment protéger, il faut avoir une analyse par nom et par contenu, et de plus, une analyse récursive. Car il y a des formats qui sont conteneurs et qui peuvent cacher autre chose. Un fichier zip peut être cacher un exécutable. Et il y aura des dommages possibles. Voilà. Alors, comment on peut lier les fichiers avec du code on peut utiliser des outils qui suppriment directement le code à l'intérieur. Par exemple, pour les macros et les documents fils, il y a un petit reset proc qui s'est fait d'intérieur. Il y a d'autres exemples, d'autres outils qui permettent de faire ça. Dans HTML, on peut essayer de supprimer les scripts. Donc là, il y a des antivirus aussi qui savent le faire, des logiciels de chiffrage de mail. Autre solution, c'est faire une conversion de format. Donc on peut prendre un format Word HTML qui pose des gros problèmes, pour le transformer en RTF ou PDF de façon automatique. Et ainsi, on est quasiment sûr que ce qui arrive à l'utilisateur final est un peu plus statique, puisque là, ce sont des RTF ou PDF qu'on a créés nous-mêmes. Donc normalement, on peut s'arranger pour qu'il n'y ait pas trop de négatifs à l'intérieur. Donc la conversion de format, c'est un moyen très efficace. Là, c'est clair pour en dire tout le code. Mais c'est très contraignant pour l'utilisateur. Concrètement, on perd beaucoup de mise en forme, voire même de l'information dans certains cas. Donc, ce n'est pas toujours évident. Alors, ensuite, un autre moyen important, enfin, un autre vecteur qui peut mettre des fichiers dans un système, c'est les supports mobiles, les disquettes, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, sur un système très sensible, on peut imaginer de nos équipements, c'est le moyen de supports mobiles, mais c'est rarement applicable. C'est très très contraignant. On peut imaginer neutraliser de façon logicielle, par exemple restreindre l'accès à l'écran du disquette à l'administrateur. Mais bon, c'est pas non plus souvent contraignant pour l'utilisateur. Donc, il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante aujourd'hui pour protéger l'utilisateur contre les fichiers qui ramèneraient d'une disquette ou d'un CD-ROM. Alors, deuxième point, on peut aussi sécuriser donc, plutôt là, le poste de travail ou se cantonner aux entrées fichiers. Donc ça passe d'abord par un paramétrage sécurisé du système d'exploitation et des applications. Donc pour Windows, Intel, Windows XP, il y a beaucoup de checklists et de disques sur Internet qui permettent d'augmenter de façon importante la sécurité du système. Mais on peut aussi essayer de sécuriser les applications elles-mêmes. Donc pour Office, il y a quelque chose qui sont possibles. Pour Acrobat, comme je vous disais, il y a des clés de registre qui peuvent être mises en place. Internet Explorer aussi est un très bon site qui est vraiment sécurisé de navigateur. Un point très important, c'est qu'il faut aussi penser ensuite à faire une mise à jour régulière du système et des applications. Donc Windows, Internet Explorer, mais aussi Office, ainsi que d'autres. Si vous gardez Acrobat Reader 3 sur vos machines, savoir qu'il est quand même plus vulnérable que Acrobat 5 Acrobat 6. Donc il faut toujours penser à est-ce que j'ai pas des applications obsolètes sur mon réseau. Bien sûr, donc installer un antivirus sur chaque poste, c'est important. Avec une mise à jour automatique, c'est pas toujours vrai. Ensuite, que peut-on faire de mieux? Parce que ce n'est pas suffisant. Il y a un point intéressant qui commence à se développer. C'est effectuer un contrôle des actions au niveau système. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour le contrôle des actions? Et en fait, on revient à exécuter les applications qu'on a dans un bac à sable comme un sandbox de Java. Donc, autoriser telle application ou telle autre à accéder au réseau, à accéder aux fichiers. Donc, il est possible de rajouter une sandbox entre le système et les applications. Donc, un exemple concret, c'est le parquet personnel d'Ami. Dans sa version 4, je ne sais pas si il y a beaucoup parmi vous qui l'ont essayé, il permet ce genre de choses. Donc, c'est assez efficace, mais. Le gros problème, c'est que je suis très complexe à mettre en œuvre, puisque là, il faut aller application par application sur les systèmes et décider quel droit je lui octroie. C'est un vrai test. Et en plus, c'est limité aux exécutables. C'est-à-dire, une fois que j'ai autorisé Internet Explorer à accéder au réseau, et après, quand je vais ouvrir une page HTML, le code malveillant sur la page HTML pourrait faire des choses dans Internet Explorer. Donc, c'est un peu limité quand même comme système, mais c'est intéressant. Je ne connais pas d'autres exemples pour l'instant. Si, je crois que c'est dans Windows 2003, on peut signer les exécutables et n'autoriser que les exécutables signés. Donc, ça permet comme ça de bloquer tout exécutable inconnu. C'est un peu similaire. Voilà. Et donc, comme on peut bloquer comme ça tout exécutable inconnu avant la première exécution, je peux parler de pallier certains problèmes de parcours personnel classique. Voilà. Autre souci de sécurité, un contrôle d'intégrité régulier. Donc, par exemple, j'ai un système de contrôle d'intégrité qui va. De vérifier régulièrement tous mes fichiers exécutables du disque. Bah, dès que j'ai un nouveau fichier exécutable qui est inconnu, normalement ce système de contrôle intégrité va détecter. Mais bon, ça marche, mais le problème c'est que c'est une détection a posteriori, donc ça n'est pas vraiment une protection. Voilà. Alors, troisièmement, les mesures organisationnelles, rapidement. Ouais. Donc, première chose, sensibiliser les utilisateurs, il ne faut pas tout faire n'importe quoi. Donc, une démonstration concrète comme j'ai fait aujourd'hui, ça peut être utile, pour marquer les esprits. Ensuite, il faut des procédures de mise à jour des OS de faire un virus. Et pour important, il faudrait interdire aux administrateurs d'ouvrir des fichiers importés sous leur compte d'administration. Donc, c'est pas toujours facile à faire. Voilà. Donc, autre solution. Donc, en fait, il faudrait arriver à distinguer les fichiers de contenu inconnu des fichiers de confiance. Donc, souvent, ça passe par la signature. Essayer de détecter les fichiers inconnus dès leur ouverture et appliquer un filtrage. Donc, au niveau système, et non pas au niveau des passerelles de réseau. Voilà, donc ce serait une solution pour les supports à réseau. Voilà, et avec un système de backup. En conclusion, donc j'espère vous avoir convaincu que la menace identifiée apportée par le réseau par les supports à mobile est bien réelle. Elle est souvent sous-estimée, en fait, on n'a pas grand-chose en fait, pour protéger. Donc, il faudrait peut-être l'aborder de façon plus globale. Donc, cette menace provient essentiellement du code malveillant qui. Être mis dans certains formats de fichiers et du fait que l'utilisateur ouvre ses fichiers sans réel contrôle. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de solution sécurisée qui soit adaptée et exhaustive dans ce contexte. Donc il faut se contenter des quelques mesures techniques que je vais appliquer. Et je pense qu'il faudrait concevoir de nouvelles solutions pour se protéger. Voilà. Donc si vous avez des questions, rapidement.
Merci Philippe, on va passer à juste 2-3 questions rapides pour qu'on puisse enquêter sur le temps d'accord. Voilà, pas de questions particulières.
Juste une question pour les formats PDF.
Oui.
Moi, tout à l'heure, ce sont des scripts OD qui sont utilisés.
Pardon, je peux.
Quel est l'anglais utilisé par
C'est une simple ligne de commande Windows.
C'est ça, c'est du script
Voilà, je vais coller le fichier là.
Oui, vous parlez du format RTF, vous mettez en niveau 4 au niveau dangerosité.
Ouais.
Faut pas oublier que vous recevez parfois des formats doc qui ont été renommés RTF et qui sont ouverts avec les scripts qui contiennent le format RTF et qui est aussi dangereux que les autres, rien que parce qu'on peut modifier les sens. Un format doc renommé RTF est ouvert,
d'accord,
format doc.
Là, pour mon point de vue, dans ce cas,
c'est pas du format natif RTL, mais quand vous recevez un fichier avec une extension RTL, n'est pas forcément du RTL.
C'est aussi dans quoi quand je vais faire un fichier pour RTL.
Parce qu'il est ouvert par
Il y a des antivirus qui détectent actuellement les exécutables en dans les. Dans avoir, par exemple, dans du RTL.
Oui, Là, ça dépend des antivirus. Enfin, l'antivirus qui tourne en temps réel sur la machine, en général, il se contente de regarder.
Ceux qui filtrent le contenu au niveau, par exemple, des mailers.
Voilà, c'est ça, sur une passerelle de messagerie. Il y a des antivirus qui vont aller décortiquer récursivement les fichiers. Et même si on zip trois fois successivement avec une jet, tu vas le trouver quand même.
Ouais, donc je voulais simplement rajouter quelque chose sur ma question. Pour ce qui concerne la sensibilisation et puis la protection, j'ai fait une petite pub pour un logiciel qui s'appelle ConfigSécu, pour des utilisateurs, à destination des utilisateurs de LAN, donc pour les administrateurs qui sont intéressés, sur le site aspirine.org, http://aspirine.org, écrit par M. François Pierre. Donc à destination vraiment des utilisateurs de base. Sur les extensions de fichiers, par simple procédure de droit, imposer donc par exemple l'ouverture de .vgs par notepad. Donc ça interdire l'ouverture automatique. Ça utilise aux administrateurs et utilisateurs de base. Moi, mon père, je lui ai donné ça parce que je ne pas très bien
il faudrait que je ne l'ai pas mentionné, mais une des mesures de sécurité qu'on peut mettre sur le système quand on le sécurise, c'est de changer les associations par défaut. Donc en fait, c'est ce qui pose problème.
Le logiciel permet de faire un certain nombre de choses et il explique pourquoi, comment marche l'ouverture de fichiers avec le double clic qu'un certain nombre d'utilisateurs de base ont compris en
français. Très bien, je vous remercie pour cette conclusion. On va passer maintenant à la présentation. Thank you.